Mes experts en boîte.
Ta première fois, ouh, ça commence bien. Quand as-tu entendu parler du nudge pour la première fois? Je suis très curieuse de savoir.
Ouais, écoute, la première fois que j'ai entendu parler du nudge, c'était au restaurant, un ami, Olivier Houllier, qui nous a parlé de ça et de ce qu'il venait de faire pour le Green Nudge sur la stratégie du gouvernement, en nous disant il y a un truc à faire avec le nudge, un nouveau concept qui a l'air intéressant. Ça nous a intéressé sur le moment, on l'a un peu oublié, puis finalement on y est revenu de manière plus forte.
Tu me tends la perche pour la deuxième question, mais du coup, pourquoi c'est revenu et pourquoi cet intérêt pour le nudge?
Cet intérêt pour le nudge, il est simple, hein, il date de mes études. Quand on m'a dit que j'étais un homo economicus rationnel maximisateur d'utilité sous contrainte budgétaire dans mes cours d'économie, je ne me suis pas du tout senti un homo economicus. Et c'est comme ça que j'ai aimé tout ce qui était psychologie et sur lequel je suis venu au nudge par derrière.
Moi, j'aimerais bien quand même en venir à ton livre. Est-ce que tu peux nous donner, parce que du coup, tu es arrivé à parler et à écrire sur le nudge, donne-nous deux, trois bonnes raisons de lire ton livre Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre.
Alors, les deux premières raisons qui sont les raisons fondamentales et qui sont les promesses du livre, hein, c'est un, pour mieux se former soi-même, et deux, pour mieux former les autres, donc autant en tant qu'apprenant qu'en tant que formateur. Et puis après, il y a les raisons. La troisième, on va dire, c'est parce que j'écris bien et que c'est agréable à lire. Et la quatrième, c'est parce qu'il y a des images absolument géniales faites par mon ami Adrien Liard qui valent vraiment le détour.
Je confirme. Les synthèses illustrées sont très chouettes. Est-ce que tu peux nous conter en quelques mots la genèse de la BVA Nudge Unit?
La genèse de la BVA Nudge Unit, c'est une rencontre entre trois passionnés de sciences comportementales qui se sont challengés l'un et l'autre pour toujours apprendre et toujours lire le dernier livre. C'est Eric Singler qui est mon CEO aujourd'hui, c'est Richard Bordenave qui dirige BVA Nudge Consulting Singapour et c'est moi évidemment. Et puis après une rencontre avec le gouvernement français qui a dit c'est sympa ce que vous racontez et si on essayait d'appliquer le nudge pour inciter les Français à déclarer leurs revenus non plus sur un formulaire papier mais sur internet, on était en 2013.
De votre côté, pardon, quel est votre coup de nudge le plus bluffant, le plus efficace ou le plus incroyable que vous ayez, sur lequel vous ayez travaillé ou que vous ayez imaginé?
Oui, alors je vais d'abord dire, j'aime pas trop ta question pour une raison simple. J'aime pas parler de coup de nudge, de bluff, parce que en fait, ça laisse penser que c'est anecdotique et que on trouve comme ça des idées en claquant des doigts, alors qu'en fait derrière il y a un vrai process et il y a de la vraie science. Mais je vais quand même y répondre. Ce qui pour moi est qui peut être utile aussi pour les formateurs qui nous écoutent dans le cadre du marketing de la formation qu'on peut faire, et je sais que ça t'est cher, c'est pas un coup d'ailleurs, c'est plein de nudges ensemble sur une même page web qui a permis d'avoir un taux de transformation de 2 à 24%. C'est-à-dire en gros, avant, c'est sur le site E4She, Gender Equality de l'ONU, sur lequel on demande aux gens de s'engager pour la cause égalité femmes-hommes. Avant, c'était 2% des gens qui étaient sur la page d'accueil qui s'enregistraient. Après la mise en place de Nudge, c'était 24%. Donc, c'est efficace et en plus, c'est une belle cause.
Ah oui, c'est vrai que c'est une question qui me taraude un peu. C'est où en est le Nudge made in France?
Eh bien, il avance. Et il avance plutôt pas mal parce que, alors, je te parle du gouvernement en France, hein, mais en gros, aujourd'hui, il y a une équipe au sein de la direction de la transformation et de l'innovation publique qui est en charge des sciences comportementales et ils tiennent au fait qu'on parle de sciences comportementales plus que de nudge parce que c'est plus large et je les comprends parfaitement en ce sens-là. Et en fait, ces gens-là, ils avaient très peu de budget avant et ils essayent d'avancer comme ils peuvent. Et aujourd'hui, à force d'avoir fait les preuves grâce au peu de budget et aux différentes choses sur lesquelles ils ont avancé, ils commencent à avoir beaucoup plus de budget, beaucoup plus de moyens pour inonder de manière plus forte toutes les politiques publiques françaises. Donc, ils avancent bien.
D'accord. Et je te posais la question parce que le nudge vient à traverser l'Atlantique, hein, et du coup, j'étais curieuse de savoir, en effet, finalement, comment on s'en était emparé en France versus le monde anglo-saxon, en fait.
Alors, est-ce que, encore une fois, si tu me parles du gouvernement, alors comment s'en est emparé en France? Ben, j'ai envie de dire la petite expérience que je t'ai racontée tout à l'heure, en 2013, avec l'ancêtre de la direction de la transformation et de l'innovation publique, pour moi, est un point de départ hein, sur l'arrivée du Nudge en France. Et puis après, ben, ils ont réussi à avancer. Mais tu vois que 2013, première expérimentation, on peine à refaire un certain nombre de choses. Il faut attendre les années 2015-2016 pour qu'il y ait des choses qui réavancent. Donc le démarrage est un peu lent, mais aujourd'hui, on a toutes les raisons de croire que c'est parti.
Et si on oublie le gouvernement dans la sphère privée?
Dans la sphère privée, il y a pas mal de choses qui se font avec pas mal de gens qui ont des brides de connaissances sur certaines sciences, des sciences comportementales, et qui intègrent ça de plus en plus. Moi, j'ai un biais de perception. Hein. En gros, comme je connais, j'ai l'impression que tout le monde connaît, mais la réalité, c'est qu'en fait, pas tant que ça, et il y a encore largement de quoi éduquer les gens sur l'intérêt du nudge et ce qu'on peut en faire. Tout le monde ne connaît pas.
Et dans le monde de la formation professionnelle continue?
Ah ben là, il y a quelques aficionados dont tu fais partie. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est encore complètement développé, mais ça ne veut pas dire que les gens n'en font pas sans le savoir. Et les gens font plutôt bien leur métier. Donc, ils en mettent, ils en font. La vraie question, c'est un, comment on peut trouver de l'inspiration grâce à la science et grâce au concept pour en faire encore plus et pour travailler encore plus sur ces logiques-là. Et deux, la question de la mesure de l'efficacité de ce que l'on fait, qui est aussi un des volets des sciences comportementales et du nudge. C'est on met en place des nudges ou des interventions, mais on mesure leur efficacité. Et ça, je trouve que c'est encore un petit peu trop timide.
Les pertes sont finalement plus impactantes dans ce qu'elles génèrent de réactions chez nous que les gains. Et moi, en tant que pédagogue, j'orientais plutôt, tu vois, mon travail sur ce que les apprenants pouvaient gagner à suivre une formation plutôt que sur ce qu'ils pouvaient perdre à ne pas la suivre. Pourquoi les pertes nous paraissent-elles plus importantes que les gains?
En gros, si on était parfaitement rationnel, si je parle d'un point de vue monétaire, par exemple, quand tu gagnes 2 euros, tu devrais être, enfin, le plaisir que tu as devrait être aussi intense que le déplaisir que tu as d'avoir perdu 2 euros. Et en fait, ça, c'est un des apports fondamentaux et fondateurs des sciences comportementales, qui est de montrer que 2 euros n'ont pas la même valeur selon que tu les perds, selon que tu les gagnes, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Et effectivement, t'expliquer pourquoi. Il y a plein de logiques qui sont derrière, mais la première logique, c'est en gros, on donne plus de valeur à ce qui nous appartient. Donc, quand on a quelque chose, ça a de la valeur et on l'a de manière tangible. Quand on nous l'enlève, bah, c'est dur. Alors que quand on ne l'a pas, finalement, c'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Donc, quand on le gagne, on est content, mais pas autant que dans l'autre sens.
Voilà. D'accord.
Et après, je fais quand même un petit warning sur ce que tu dis par rapport à la logique de formation, parce que j'aime ton côté positif. Qui est d'encourager les gens avec ce qu'ils peuvent gagner sur une formation plutôt que de leur faire peur avec ce qu'ils vont perdre sur une formation. Donc, ce sont des choses, là, pour le coup, que je t'encourage à tester. Et je sais que quand c'est utilisé dans les logiques de formation, c'est souvent utilisé ex post et ça a été beaucoup utilisé pour lutter contre l'absentéisme à l'école où, en fait, quand les enfants ne viennent pas, on envoie un mot aux parents et aux enfants pour leur dire, voilà, en n'étant pas venu aujourd'hui, voilà ce que vous avez perdu. Et tu vois que je le fais ex post et je ne le fais pas ex ante. Justement parce que j'aime le côté positif de voilà ce que tu vas venir gagner. Mais par contre, une fois que tu n'es pas venu, j'ai envie de te marquer.
En imaginant que l'on ne se rappelle que des dernières secondes de cette interview, qu'aurais-tu envie qu'on emporte avec nous?
Ben, que le contexte dans lequel on fait les choses est super important pour l'apprentissage. Et que ce n'est pas qu'une question d'individu en tant que tel, mais c'est un individu à un moment donné, dans un contexte donné. Et on joue trop peu sur le contexte.
D'accord. Mais là, il faut que tu développes. Là, tu as piqué ma curiosité quelques mots en plus. Tant pis si je rajoute une minute dans mon enregistrement. Un exemple, par exemple, pour que les choses soient plus concrètes, parce que
un exemple qui m'a été cité une fois par quelqu'un qui faisait de la formation, et il a prévu l'ensemble de la formation, et il a dit à son client, on va exploser le budget, mais la formation, on va la faire dans un théâtre. Et en fait, la seule chose, en tout cas, la formation a marqué les esprits parce qu'elle avait été faite dans un théâtre. Alors, il y a des raisons à ça, hein, mais concrètement, la même formation faite dans un théâtre ou faite dans un endroit de séminaire classique, comme on les connaît tous, ou faite sur le point de vente, par exemple, si on est dans le retail, l'impact ne sera pas du tout le même.
D'accord, voilà un exemple concret, parce que pour les non-experts du nudge, c'est important, les choses concrètes. Ok, mais moi, je l'emporte aussi avec moi, parce qu'on travaille sur le contexte, mais peut-être pas assez, surtout en digital learning, hein, quand on est en asynchrone.
Exactement, c'est plus facile sur du synchrone que sur de l'asynchrone et sur du digital, mais il y a peut-être des réflexions à avoir.
Il y a des réflexions à avoir. Exactement. Oui. Un grand merci et à très vite.
Merci, à très bientôt. Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.